Bienvenue dans le podcast Nouvelle Conscience. Nous discuterons ensemble de projets, d'œuvres et d'acteurs vecteurs d'espoir pour l'édification d'un monde plus respectueux du vivant et de soi-même. Je suis Manon Salah et je chemine depuis longtemps pour comprendre le lien intrinsèque entre le bien-être individuel et l'élan du collectif. Je vous invite à me joindre dans ce jeu de pistes afin de semer ensemble les indices vers une nouvelle conscience. Bonjour Kelly.
Bonjour Manon.
Bienvenue dans ce 8e épisode de Nouvelle Conscience.
Merci pour ton invitation.
Avec plaisir, je suis ravie que tu sois parmi nous aujourd'hui.
De même.
Eh bien, on va commencer. Donc tout d'abord, en ce qui concerne quelques éléments autobiographiques, donc, tu as 7 ans quand tu quittes avec ta famille Casablanca, au Maroc, et que tu t'installes à Carcassonne, donc un tout nouveau quartier, nouveau pays, nouvelle ville, nouvelle langue aussi. Donc on est en 1970 avec 4 filles et 2 garçons, plus une naissance en France, d'après ce que tu m'as dit. Donc Kebira Faham, maintenant la Kibi, donc tu disais à la fois dans ton cercle intime, maintenant un public plus large. Pour différentes raisons, puisque maintenant ta voix s'est diffusée à d'autres milieux, d'autres univers. Tu es désormais coach en développement personnel et tu as de nombreux outils. Praticienne en PNL, donc programmation neurolinguistique, praticienne en Access Bar, tu es conseillère en images également. Tu appliques de nombreuses méthodes telles que la méthode de l'énéagramme ou la méthode ESPER également. Tu accompagnes des jeunes dans la gestion de leurs émotions, de la gestion de leur réussite scolaire, des femmes également. Et là, donc, tu t'es posée dans ton cabinet, donc, où tu accompagnes de façon dans un suivi plus individualisé les personnes qui en ont besoin.
Oui, depuis janvier.
Oui, donc c'est le début.
C'est tout le début.
Voilà, après le Covid, voilà.
Le Covid a bougé pas mal de données chez moi aussi. Mm-hmm. Donc ça m'a permis de lancer mon activité, oui, en privé, en cabinet.
D'accord. Puisque tu as arrêté l'activité auprès des jeunes, ou c'est quelque chose que tu souhaites faire?
Je ne l'ai pas arrêté, je continue toujours auprès des jeunes, auprès des lycéens. Mm-hmm. Je continue toujours.
D'accord. Et donc déjà, il faut savoir que Kebi, tu as passé ton baccalauréat à 40 ans.
Eh oui.
Donc la première question que je me pose, c'est quelle force t'a poussé à t'engager dans cet examen, à cette étape-là de ta vie?
Je savais que déjà à l'âge de 12 ans, je m'étais promis que je passerais mon bac, quoi qu'il en soit. Et quand mes filles ont grandi, ont pris leur autonomie, donc j'avais du temps pour moi. Et ce temps-là, je l'ai consacré pour passer mon bac.
Waouh! Et tu l'as travaillé comment, ce bac? Tu allais en cours ou c'était à distance?
Non, c'était à distance. J'étais accompagnée.
D'accord.
Merci.
Bravo à toi.
Ben écoute, merci.
Et est-ce que tu penses que cette expérience t'aide pour l'accompagnement des jeunes que tu proposes? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cet accompagnement, s'il te plaît?
Alors, les sœurs qui m'accompagnent, puisque je fais partie de ces enfants où la scolarité n'a pas été simple, puisqu'il a fallu que je bataille entre des mots, les synthèses, la revue de grammaire, l'orthographe, la conjugaison, les tests. Donc, ça a été quand même assez compliqué pour moi. Donc, je ne dis pas que je comprends leurs difficultés, hein, mais je vois qu'on peut avoir des difficultés, que quand on ne rentre pas dans le moule scolaire et qu'on sort un petit peu de moule, on a plus de difficultés. Donc, oui. Et puis les jeunes m'ont toujours intéressée, quoi. Pour moi, j'ai une croyance aux jeunes, et donc mon approche est vraiment humaniste, je dirais.
Ouais.
Oui.
Et quand tu dis les jeunes, c'est plutôt les enfants, les adolescents, ou tu les mets dans le même groupe?
Je mettrais dans le même groupe, je mettrais ados et jeunes adultes.
D'accord.
Oui.
Et qu'est-ce qui te fascine chez eux ?
Ah, moi, ce qui me fascine, c'est leur spontanéité.
Oui.
Ils sont nets, ils sont. Voilà, ils disent ce qu'ils pensent et il n'y a pas de filtre.
Oui.
Et pour ça, c'est. Pour moi, c'est épatant. Et puis, je trouve qu'au jour d'aujourd'hui, les jeunes sont plus forts, plus combattants qu'on peut imaginer.
Mm-hmm.
Et je pense qu'ils ont juste besoin aujourd'hui qu'on les accompagne vers leurs rêves, vers leurs projets, que ce soit de vie ou que ce soit professionnel.
Mm-hmm, d'accord. Est-ce que tu sens que les jeunes que tu accompagnes et les femmes que tu as accompagnées étaient réceptifs et réceptives à cette approche de l'être humain ?
Ah oui, puisque mon approche est quand même spécialisée auprès des ados et des femmes, et je me suis vraiment spécialisée dans ça. Je fais partie de ces personnes aussi, jusqu'à aujourd'hui, je n'avais peut-être pas conscience, mais d'hypersensibilité. Dans l'hypersensibilité, ça fait aussi partie, humainement, on est proche de l'être humain et on est touché par l'autre aussi. De me souvenir d'enfant, mon hypersensibilité, pour moi, ça a été plus quelque chose qui était désagréable. Et surtout, il fallait le cacher, surtout qu'on ne voit pas que j'étais hypersensible et j'avais l'hypersensibilité, était montrée du doigt, comme quelqu'un qui était faible. Mais au fond de moi, je sentais qu'il y avait une force, donc il n'y avait pas cette faiblesse. Et j'ai fait des recherches et c'est comme ça que j'ai découvert ce que c'était que l'hypersensibilité, ce qui a fait cette force que j'ai aujourd'hui de pouvoir aller au bout de mes objectifs, qui sont bien sûr réalisables. Et d'accompagner. Et cette hypersensibilité, aujourd'hui, moi, j'en ai fait une force. Pour moi, c'est une force. C'est même pas une... C'est une force.
D'accord. Ouais. Donc, finalement, ce que tu as découvert, c'était tellement... Tellement... Sous ces outils, voilà, c'était tellement utile pour toi. Tu t'es dit, OK, je veux que tout le monde le sache, que...
Ah,
on parlait autour de
moi. Ah, ouais. Et puis, l'hypersensibilité, moi, je peux pleurer avec quelqu'un qui est émotionnellement là. Et ça ne me dérange absolument pas, parce que c'est... comment dire ? Je peux avoir une émotion de frisson, je peux avoir une émotion de joie, et je peux avoir aussi une émotion de tristesse. Mais en même temps, elle est belle, elle est là, et je l'accueille. Mmh. Je me dis, OK... Choquer avec ça.
D'accord. Ouais. Ben, ça fait réfléchir sur le rapport qu'on entretient avec soi-même et la douceur.
Et le fait de dire OK, là, j'ai cette émotion qui me dérange, elle est triste. Le fait de dire OK, elle est là, je la caisse, c'est OK pour moi. Tout passe, quoi.
Ouais.
Et on le sent tout de suite. Parce que tout de suite, quand on dit OK, je suis OK avec ça. On sent une sensation de paix à l'intérieur de soi.
Oui, t'es plus dans la résistance.
On n'est pas dans la résistance.
Là là,
ouais. Plus on est dans la résistance, plus on se fait du mal. Et moins c'est facile. Et moins on réussit. Il faut savoir lâcher prise, quoi. Et le lâcher prise, c'est d'abord accepter. Accepter dans quel état on est aujourd'hui, quoi. Oui. Juste l'accepter.
Au niveau physique, alors là, c'est...
Que ce soit physique, que ce soit émotionnel, que ce soit dans ce qu'on est, OK, j'accepte en étant où je suis aujourd'hui. Juste accepter.
Mmh. Ouais.
Pour lâcher prise.
C'est-à-dire, à un moment, quand tu dis lâcher prise, c'est cet état-là va disparaître, va...
Dire, OK, donc là, j'ai une émotion de peur, et qu'est-ce que j'en fais ? Je suis là, et j'accepte qu'elle est là. Et là, la solution ? On la trouve. En soi, on la trouve.
Peut-être pas de suite.
Peut-être pas de suite. Peut-être dans quelques jours. Mais la solution, on la trouve. Il faut savoir que dans le coaching, c'est la personne qui trouve la solution qui lui convient. C'est pas le coach. C'est celui qui est coaché qui trouve sa solution qui lui appartient. Donc, comment lui, il peut régler.
Donc il fait son propre coach au final.
Si on veut, même pas. Je crois qu'il fait sa propre analyse ou sa propre démarche, comment lui, il a envie d'évoluer, mm-hmm. avec ce qu'il est.
Merci. En ce qui concerne la gestion du stress et des émotions que tu fais dans les lycées, est-ce que tu penses que plus de lycéens, de lycéennes auraient besoin de cette approche-là ?
Ah oui, oui. Je pense que on ne se rend pas compte de l'approche des examens, de la peur de ne pas savoir, l'orientation, savoir où je vais, qu'est-ce que je fais. Est très compliqué. On ne se rend pas compte de toutes ces peurs, de toutes ces craintes. Si on commence à travailler sur l'anxiété et sur leurs peurs, qu'est-ce qui fait qu'ils sont anxieux? Qu'est-ce qui fait qu'ils sont en manque de confiance? Je ne peux pas dire une généralité, ça va dépendre de la vie de chacun. Comment lui ressent ses émotions? Quelle émotion est là? Et on parle de cette émotion qui est réveillée par cette peur et par cette anxiété. Qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il en c'était? C'est quoi une peur? C'est quoi la colère? Et c'est en partant de leur émotion qu'on peut travailler.
Et est-ce que tu vois des anxiétés, des émotions qui reviennent souvent, des peurs? Est-ce que tu pourrais classer des grandes peurs, des grands groupes qui seraient communes un peu aux jeunes que tu accompagnes?
Je ne peux pas donner une généralité. Je ne peux pas donner une généralité parce que ça va dépendre de la personne, de sa vie, de ce qu'elle a vécu, de ce qu'elle est. Je ne peux pas donner une généralité.
Ah, il n'y a pas des grands groupes de peurs qui reviendraient? La peur de l'échec, la peur, je ne sais pas, de... Tu parlais de moule, donc justement de ne pas s'insérer dans un moule.
La peur de l'échec, elle y est toujours. Mais c'est quoi la peur? On a besoin de... Ça peut être la peur de l'autre. Et ça, je ne peux pas parler non plus d'une généralité, quoi. Les personnes qui n'ont pas peur. Il y en a qui ont peur de la réussite.
Aussi, c'est vrai. On n'y pense peut-être pas assez à
ça. On n'y pense pas assez, mais on a la peur de la réussite.
Aussi. Pourquoi, selon toi?
Ben, si j'ai peur de la réussite, c'est que je vais me couper de mon clan.
Ah oui.
Si je réussis, je ne serai plus ce que je suis. Et puis, souvent, je rencontre des jeunes qui ont la peur de quitter le nid familial.
Oui.
Ça aussi, ce n'est pas l'examen à lui-même, c'est la peur du lendemain, c'est la peur de se dire qu'est-ce que je fais.
Et ça me fait penser à l'accompagnement dont tu parlais tout à l'heure de mindfulness.
Oui.
Qui peut-être que j'imagine que ça peut aussi te donner des outils pour apprendre aux jeunes à être dans le présent et plus à être perdu dans cette peur du futur.
Arriver à être juste là, je suis présent. Et ce que je pense là, c'est maintenant. Il faut savoir que les pensées, notre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui était hier, aujourd'hui ou demain. Et ce que je trouve dans les ateliers, c'est ce qui fonctionne, c'est la confiance qui se dit. Donc, que ce soit dans le groupe, que ce soit avec moi, et que ce soit dans le cabinet, tout d'abord, c'est de travailler sur leur confiance et l'estime d'eux. Pour moi, c'est la base, l'estime. Comment moi je me sens, comment moi je me regarde, qu'est-ce que j'ai envie de faire avec ce que je suis aujourd'hui. Bien sûr, avec mes freins qui m'appartiennent, avec mes points limitants, je dirais. Mais qu'est-ce que j'en fais? Mais de ces points limitants, c'est sur quoi on travaille. Et de ces points limitants, d'en faire une force.
Oui. Et comment tu établis cette confiance avec les jeunes? Parce que donc, ils arrivent, mais comment tu brises la glace alors pour qu'ils osent te dire tout ça?
Alors ça, c'est un mystère. Même pour moi, aujourd'hui, c'est un mystère. Ça se fait. Mais je ne peux absolument rien dire, ce mystère. Et je le remercie toujours de cette confiance qui se lie parce qu'elle est vraiment dans le groupe. Et puis même, ils font confiance au groupe. Et ça, c'est une force.
Ah ouais, rien que de l'imaginer, ça doit être tellement beau. Et on en parlait ensemble. Donc moi, j'étais lycéenne il n'y a pas si longtemps que ça. Et j'aurais tellement eu besoin d'avoir des groupes comme ça au lycée.
C'est le retour que j'ai. Le retour que j'ai, c'est... Waouh, ça nous a fait du bien. Parce que le fait d'être en groupe, même s'il y a des jeunes qui ont du mal à s'exprimer, que d'autres expriment, ça fait écho quand même.
Oui.
Ça fait écho à l'autre. Et c'est ça la force. Et puis... je trouve que il faut savoir aussi que les jeunes, c'est quand même un groupe, un clan. Ils ont besoin d'être en groupe, de pouvoir avancer aussi, comme ça. Et c'est ce qui fait la force.
Oui. Donc pour toi, l'approche de groupe comme ça va apporter une autre dynamique, va quand même permettre de se délivrer.
Oui.
Ah ouais.
Oui, oui. Oui, parce que ce qui est soulevé pendant l'atelier fait écho à tous ces jeunes. Ils retrouvent toujours la même problématique, la peur de parler en public, la peur de s'exprimer. Je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie demain. Je vais faire ça, mais je ne sais pas. Enfin, c'est pareil. Et puis, le fait d'être en groupe, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls. À vivre ça. Alors, c'est vrai qu'il m'est arrivé d'avoir des jeunes dans les ateliers où ils étaient entre. La moyenne était entre 17 et 18. Ils étaient dans les peurs, dans l'anxiété de ne pas y arriver. Et dans le groupe, puisqu'on fait beaucoup de groupes mélangés, c'était des jeunes qui avaient entre 10 et 11. Ils étaient surpris de voir que ce jeune était anxieux, peureux, alors qu'ils le voyaient avec un autre gars. Et qu'ils étaient dans la même recherche de travailler leur anxiété, leur peur, leur confiance et de pouvoir...
Est-ce que tu penses qu'on nous l'apprend ça, à affronter nos peurs, ou c'est quelque chose qu'on a plutôt tendance à dire « Ok, je regarde pas, c'est pas grave. »
On a tendance, même les parents, nous les parents les premiers aussi, on a tendance à dire « Mais non, tu vas y arriver. » Aujourd'hui, avec du recul, je dirais que vous n'êtes pas assez écoutés. Nos parents, nous, en tant que parents, et je me mets dedans aussi, c'est que on veut votre réussite, mais on vous pousse aussi. Et on met le challenge tellement haut, on vous met la pression, parce que notre peur à nous, on vous la transmet aussi. Et on ne s'en rend pas compte. Moi, la première, je ne me rendais pas compte que je pouvais mettre autant de pression. Mais avec du recul, je me dis, ah ouais, quand même. Et ça, on ne le voit pas.
Et tu le vois maintenant, du coup.
Je le vois maintenant, puisque j'ai quand même du recul, et j'ai beaucoup de témoignages, et puis nos échanges avec les échanges, c'est juste d'être rassuré, quoi.
Oui, d'avoir un espace pour eux.
D'avoir un espace pour eux, d'être rassurés. Et puis je me rends compte que je rencontre beaucoup des enfants qu'on appelle zèbres aussi dans mes ateliers. C'est des enfants qui ne rentrent pas dans le moule scolaire, même s'ils ont une intelligence, même s'ils sont. On peut même rencontrer des surdoués, mais ils ne rentrent pas dans le moule scolaire et ils ne sont pas compris. Et en général, ces jeunes, c'est des hypersensibles. Et l'hypersensibilité, si on ne la gère pas, si on ne la comprend pas, elle nous bloque. Et si on se connecte à cette hypersensibilité, donc il y a cette anxiété qui devient maladie au bout d'un moment. Et les parents, souvent, ne comprennent pas. Mais pourtant, t'es intelligent, pourtant. Mais non, il y a cette hypersensibilité et tant qu'on n'a pas compris qu'il y a cette hypersensibilité, mais qu'on peut en faire une force, on n'avance pas. Parce que l'anxiété prend le dessus, la peur. Et si l'anxiété et la peur prennent le dessus, on n'a plus confiance. Et la confiance, il n'y a plus d'estime de soi.
Oui.
Et l'adolescence, on a besoin d'être construit. Et si on se construit dans cette période un peu bancale, qui est toujours bancale, mais si on n'arrive pas à trouver un certain équilibre, ça, c'est quelque chose qui nous, qui peut nous empêcher, qui peut empêcher le jeune de d'avancer.
Oui.
Ou ça peut partir en déprime, ou s'enfermer et ne plus avoir du dialogue ni avec les parents ni avec l'extérieur. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas, qui ne savent pas tout ça.
Bien sûr.
Et c'est ce qu'on appelle ça, les enfants zèbres. Ou l'hypersensibilité.
Et si tu avais, admettons là, un jeune ou une jeune t'écoute, quel conseil tu aurais à lui donner pour accueillir cette hypersensibilité, l'accepter?
C'est difficile de dire, d'accepter. C'est d'abord de l'identifier. Est-ce que je suis capable de me dire qu'est-ce que je dois identifier? Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? Qu'est-ce qui se passe à moi? Et ça, c'est d'abord le plus important. Et je dirais simplement de se faire confiance. Mais vraiment, et de se dire que la vie, il y aura toujours des obstacles, quoi qu'il en soit. Les réussites n'arrivent qu'à les obstacles, et d'en faire une force. Et d'accepter d'être différent. Quand on est ado, quand on est jeune, on a du mal à accepter d'être différent, parce qu'on veut rentrer dans le moule, on veut rentrer dans le groupe, et pour être aimé. Et la différence fait peur.
Bien sûr.
Elle fait peur aux êtres humains, du moment où on est différent, du moment où je peux être blanc, noir, ou parce que je vais avoir cheveux orange, ou je vais arriver habillée avec une tenue différente des autres, et bien, on va me regarder différemment. Et est-ce que j'accepte d'être différent et j'avance avec cette différence et j'en fais une force? Ou je reste enfermée dedans et à ce moment-là, je ne bouge plus.
C'est beau.
Et je reste là.
Ouais, c'est vrai. Donc d'abord, c'est prendre conscience en fait de que cette différence, voilà, et en fait tout dépend de comment on l'aborde. Ça, on peut se dire oh là là, c'est dur, et aussi se dire ok, mais c'est moi ça, c'est mon essence, c'est ma personnalité, ou en tout cas une partie. Donc l'acceptation de soi totalement.
L'acceptation de soi totalement. Mais l'acceptation de soi totalement passe par une crise en soi.
Oui.
Qui dit, mais tout se bouscule en moi et qu'est-ce que j'en fais de tout ça qui arrive, tout ça arrive, qu'est-ce que j'en fais? Quand c'est trop compliqué, je pense que c'est de se faire accompagner. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut aller faire une thérapie, c'est juste de comprendre son fonctionnement. Dans mes ateliers, ou dans mes accompagnements aussi, en cabinet, c'est je donne des clés pour que la personne apprenne à se connaître. Ça veut dire, ok, je prends un exemple, mon image est très importante. Pour être aimée, je donne une image très positive, il faut que je sois beau, il faut que je sois bien habillée, il faut que ma tenue corresponde à ce qu'on... en même, et c'est ok avec ça, je suis ok avec ça, c'est mon image aujourd'hui qui est importante, je suis ok. Mais le fait d'accepter ça, de se dire mais je suis comme ça, donc j'accepte aussi d'être bousculée par rapport à ça, et que je peux être dans ces points limitants, mais à ce moment-là j'en fais une force.
D'accord.
Ça peut être aussi, dans certaines personnalités, c'est la confiance aléatoire. Je n'ai pas confiance en moi, je n'ai pas confiance au monde. J'ai toujours ma confiance, elle est là aujourd'hui et demain, elle n'est pas là. Qu'est-ce que j'en fais? Ok, aujourd'hui, elle n'est pas là. Mais sache que demain, quand tu as pratiqué telle chose, ça peut être un sport, ça peut être une activité, tu as retrouvé ta confiance, oui. Mais alors, reviens à ce moment-là, revis ce moment-là, pour pouvoir le revivre aujourd'hui.
Ça me fait penser à la notion de plasticité cérébrale.
C'est ça.
Voilà, comme quoi, au final, notre cerveau est toujours en perpétuelle transformation, évolution.
Évolution. Et c'est de lui donner tout ce qui est... de voir qu'on a pu réussir à un moment donné dans sa vie, peu importe ce qu'on a amené.
Mais du coup, ouais, revoir cette réussite et se dire j'en suis capable.
J'en suis capable. Je ne sais pas comment je vais y arriver, mais je sais que je suis capable d'y arriver. Et le fait juste de se dire je suis capable, je vais y arriver, mais je suis sûre que les choses arrivent. On trouve des idées, il peut y avoir. La personne peut arriver avec ce qu'elle est.
Ça, c'est tellement important à dire. Tu peux juste être toi et.
Juste être toi. Et tu peux y arriver avec ce que tu es. Si tu te fais confiance, tout passe. Mais ça ne veut pas dire je me fais confiance, je reste assise sur ma chaise et je ne bouge pas. Ça veut dire je me fais confiance et je vais affronter. Quoi qu'il arrive, les obstacles, je vais pouvoir les augmenter. Et si jamais je n'arrive pas là, eh bien, je continue. Mais à un moment donné, je vais y arriver.
Donc c'est aussi la confiance dans les objectifs qu'on se donne.
Tout à fait. Mais l'objectif, il faut qu'il soit réaliste. Si je me fais un objectif de me dire, ben, à la fin de l'année, je vais arriver à faire le marathon de New York, je prends cet exemple. Mais si je reste assise devant la télé en poffrée de chips et de coca, c'est sûr que là, non. Donc c'est aller chercher les ressources au fin fond de soi. Et ça demande du courage et la volonté. Il faut y aller. Mais on y arrive.
La première étape, c'est la volonté, alors.
La première étape, c'est la volonté. De se mettre un objectif. Mais l'objectif, il faut qu'il soit atteignable.
Oui. Merci pour ces mots, pour ces conseils et cette ouverture sur une meilleure compréhension de soi. C'est pour finir, ce podcast s'appelle Nouvelle Conscience. Qu'est-ce que ça éveille en toi, ce nom ?
Nouvel élan dans la vie.
Un élan individuel ou collectif ?
Alors, on va partir individuel, puis on va partir collectif aussi. Parce qu'on a besoin des uns et des autres pour avancer.
Oui. Ça, t'en as beaucoup parlé, c'est-à-dire les jeunes dans les groupes, voilà, comme quoi ils y allaient pour eux, mais le fait d'être en groupe, ça faisait l'effet miroir, ça les soutenait.
Mais on a besoin des uns et des autres pour avancer dans la vie, que ce soit dans les jeunes, que ce soit dans la vie de tous les jours aussi. On n'est pas des individualistes, on est des êtres humains et on a besoin aussi d'être entouré et d'avoir une solidarité des uns et des autres. Ça fait partie de ma philosophie de vie.
Merci, Kévi.
Merci à toi, Manon. Et merci pour cette interview. Merci pour cet accueil. Et puis, pour moi, c'est une première.
Ben, bravo à toi. C'était génial, hein, vraiment. Tu vois, peut-être pas la dernière.
Peut-être pas. À voir.
Voilà, bon, en tout cas, les auditeurs, auditrices peuvent suivre tes aventures sur ton site internet, qui sera bientôt, je crois, publié, le nouveau site.
Prochainement.
Voilà.
Prochainement.
Et également, de toute façon, je mettrai le lien de ta page Instagram aussi sur le compte du podcast. Et ils peuvent te contacter. Tu fais aussi des séances à distance.
Je fais aussi des séances à distance. On peut me contacter par Instagram ou par le site.
Merci pour votre écoute. Je vous retrouve la semaine prochaine pour construire ensemble cette nouvelle conscience. En attendant, n'hésitez pas à partager, aimer, diffuser autour de vous ce podcast. À très bientôt.